Mise au point. Le magazine des politiques publiques.
Bonjour à toutes et tous. Alors pour l'émission d'aujourd'hui, nous accueillons Michel Neugnot, président de la commission Transport et Mobilité de Région de France et premier vice-président de la région Bourgogne-Franche-Comté. Bonjour Michel Neugnot.
Bonjour.
Alors Michel, pour commencer, quel regard Région de France porte-t-elle sur la LOM, la loi d'orientation des mobilités, et en particulier sur tout le volet gouvernance?
Région de France a un regard tout particulier sur cette loi parce que les régions de France ont été associées à la réflexion qui a précédé la LOM. Et le changement de nom entre la LOTI, loi d'orientation des transports intérieurs, et loi d'orientation des mobilités est essentiel. On avait pour habitude de parler de moyens de transport. Là, il va falloir commencer de parler de réponse à nos concitoyens en matière de solutions de mobilité. Et rien que ce prisme nouveau va permettre de trouver les réponses nécessaires sur les territoires. Ce qu'il faut relever, moi j'ai toujours défendu ça, avant d'être une affaire d'argent, c'est une affaire de gouvernance. C'est une affaire de gouvernance avant d'être une affaire d'argent, pour une simple raison, c'est que actuellement, sur une grande partie, sur 80% du territoire national, il n'y a personne en charge des mobilités.
Alors justement, grosse question, c'est la prise de compétence par les communautés de communes. Alors de quelle manière est-ce que les régions vont pouvoir accompagner ces territoires dans leurs réflexions?
Avant la prise de compétence par les comités de communes, se posait le rôle de la région, qui est un rôle double. Il y a un rôle d'architecte des mobilités, c'est-à-dire comment, sur le territoire régional, on organise les systèmes de mobilité. Et il y a un rôle de chef d'orchestre. Comment on fait en sorte que tous les instruments qu'on aura repéré sur les territoires, joue sur la même partition. Et naturellement, la région récupère totalement cette compétence, à la fois d'architecte et de chef d'orchestre, et elle doit faire en sorte que les solutions puissent être élaborées sur les territoires, dans le cadre de bassins de mobilité, et les communautés de communes sont le maillon en infra, qui est le maillon avec lequel les régions doivent travailler.
Alors, on va détailler un peu tout ça, si vous me permettez. Je vous repose la question de quel accompagnement pour les Comcom, dont certaines sont totalement novices en matière de mobilité.
Eh bien, l'accompagnement va être déjà en premier la réflexion sur les cartes des bassins de mobilité. C'est-à-dire le premier sujet, c'est de travailler avec les communautés de communes pour définir avec elles quelles sont les communautés de communes qui ont le même destin en matière de mobilité, qui ont les mêmes tendances. Et je peux prendre l'exemple de la Bourgogne-Franche-Comté, où nous avons fait ce travail au mois de janvier, dans les 8 départements, et où effectivement, de 102 intercommunalités, puisqu'on enlève les intercommunalités urbaines, eh bien, nous sommes arrivés à la définition de 22 bassins de mobilité. Donc ça, c'est la première chose, c'est le rôle d'architecte. Et ensuite, dans chaque bassin de mobilité composé de plusieurs intercommunalités, en moyenne 4 ou 5, on va commencer avec tous les acteurs de poser un diagnostic sur l'existant et derrière, voir quelles sont les carences, et quelles sont les solutions que l'on veut apporter. Donc la région, pour répondre précisément à votre question, a ce rôle d'architecte, d'ingénier qu'elle doit apporter aux communes et aux intercommunalités pour leur permettre de réfléchir à leur destin en matière de mobilité.
Alors ma question, c'était justement, vous évoquiez ce rôle d'architecte, d'ensemblier des régions. Et la grosse question, c'est d'assurer la coordination en fait entre les multiples acteurs de la mobilité. Comment est-ce que les régions se préparent pour assurer ce rôle-là ?
Eh bien, c'est un rôle tout nouveau pour elles. C'est un rôle tout nouveau pour elles, et cela ne peut passer que par la création de postes dans les régions, de postes budgétaires et de recrutement des personnes pour faire le suivi. Nous avons prévu nous avons délibéré dessus huit personnes qui vont être en charge d'animer ces réunions par bassin de mobilité pour justement faire ce travail d'inventaire et un travail ensuite de proposition. Et le rôle de la région est essentiel parce que les bassins de mobilité communiquent entre eux. Donc, il va falloir que la région explique clairement quelle est sa politique elle-même de mobilité, qui est, va dans la continuité des compétences qui ont été données par la loi NOTRe et des SRADET, qui doivent aborder aussi cette réflexion sur les mobilités et qui l'abordent. Donc, la région devra avoir des moyens humains pour le faire, pour faire l'accompagnement. Et fort justement, on devra se poser la question, toutes les intercommunalités ne sont pas au même niveau. Certaines intercommunalités se sont posées la problématique des mobilités, ont essayé de le faire, et toutes se sont aperçues que la réflexion, c'est, on peut la faire, il y a de très bons cabinets d'études pour le faire. Trouver des solutions, on les trouve, mais le passage à l'acte, justement parce que personne n'était responsable de ça, était très difficile. Donc là, pour cela, ça va être plus facile de passer le cap et de rentrer dans l'architecture régionale. Mais par contre, il y a des intercommunalités qui, elles, sont totalement vierges de toute réflexion. Et celles-ci, ça passe déjà, il faudra avoir beaucoup plus d'attention vis-à-vis d'elles, parce qu'elles peuvent être dans un système, le maillon faible, d'où la nécessité de faire de la formation, de voir de quels moyens elles peuvent disposer pour le faire et voir comment cela va être traité. Et je le dis, que les intercommunautés prennent ou non la compétence mobilité. Parce que dans un cas comme dans l'autre, la réflexion locale, avec les intercommunautés, dans le cadre des bassins de mobilité, est une nécessité. Que la compétence soit assumée, parce que l'interco ne l'aura pas pris, par la région, ou que la compétence était assumée par l'interco elle-même. L'architecture du fonctionnement doit être, et la gouvernance doit être exactement la même. Après, c'est un problème de choix. Et moi, je crois que, pour bien démontrer cela, il faut donner des éléments aux intercommunalités pour que la réflexion du choix de prendre ou non la compétence, ce soit sur l'opportunité la meilleure pour le territoire de la prendre ou non. D'où la nécessité, avant que ce choix soit définitif, parce qu'il est réversible, il faut le savoir, avant que ce choix ne soit pris, eh bien, il y a nécessité de travailler sur du concret, et de monter un peu ce projet local qui s'intègre dans un schéma régional.
Ouais, donc vous insistez bien là sur l'importance de l'humain et de la formation. On a évoqué tout à l'heure sans le nommer le deuxième outil qu'a créé la LOM, qui est ce sont les contrats opérationnels de mobilité, qui est un nouvel outil aussi. Est-ce que vous avez des exemples de régions qui ont commencé à anticiper l'opérationnalisation de cet outil ?
Non, il n'y a pas encore de région à ma connaissance, parce que il faut déjà, pour avoir des contrats opérationnels de mobilité, il faut déjà mener la réflexion, il faut que les bassins de mobilité soient définis, et ensuite on rentre dans dans la déclinaison opérationnelle de cela. Pour l'instant, il n'y a aucune région qui le fait. D'ailleurs, commencer par cela ne serait pas forcément la bonne formule. Par contre, il y a des régions qui ont déjà travaillé, avant même qu'il y ait la LOM, à certaines coordinations. Je pense à l'Occitanie qui le fait avec des réflexions qui sont déjà menées allant dans le sens de la LOM par département. Et je pense aussi à l'Aquitaine, Nouvelle-Aquitaine qui est à côté, qui, elle, essaie d'avoir une structuration par des syndicats mixtes pour mener cette réflexion. Mais ce sont des démarches qui ont été faites avant la LOM, pendant comme étant une réponse, mais qui sont des possibilités données par la LOM, mais qui ne sont pas directement dans le schéma opérationnel. Ce qui est quand même essentiel, moi je voudrais, avant de parler des contrats opérationnels de mobilité, ce qui est essentiel, c'est le travail qui doit être fait dans les bassins de mobilité. Ce qui est totalement nouveau, c'est que l'entreprise est mise au cœur de ces problématiques. C'est-à-dire, quand je dis l'entreprise, c'est l'entité entreprise avec le patronat, mais avec les salariés et leurs représentants syndicaux. Pour la première fois, on impose que dans le dialogue social annuel dans les entreprises, le volet mobilité, donc déplacement à domicile travail, soit abordé. C'est un élément essentiel, parce que les autres lois, en urbain, on décide dans les collectivités d'un versement mobilité, très peu vont voir vers les entreprises et discutent fortement. Il y a sur les cinq dernières années quelques-unes qui l'ont fait, mais qui ne sont pas légion. Et donc là, partir des besoins pour permettre de trouver des solutions, c'est une démarche qui est essentielle. L'autre démarche pour construire ces contrats opérationnels de mobilité, c'est de mettre dès le départ tous les acteurs. Les acteurs, c'est ce que je dis, les entreprises et avec les syndicats, c'est les usagers, naturellement, regroupés en association locale ou autre. Hein. Et puis, les acteurs, c'est tous les gestionnaires de réseaux, que ce soit des réseaux routiers, autoroutiers, quand les territoires sont concernés, les réseaux SNCF, naturellement, les réseaux rail, pour que on ait vraiment tous les acteurs dès le début de la réflexion, pour que chacun puisse comprendre les limites de l'eau. Et je crois que cette loi va permettre de faire une réflexion d'un nouvel ordre, c'est-à-dire pluridisciplinaire, où chacun aura sa voix et où le rôle de la région avec les intercos dans les bassins de mobilité sera de coordonner tout ça, de mettre du lien, ce rôle un peu de chef d'orchestre. Et après, ça va se décliner dans un partenariat avec chaque intercommunalité, en contrat opérationnel de mobilité, pour donner à la fois des objectifs, mais à la fois un calendrier d'action, parce que ça va pas être la fée, l'homme qui va arriver et qui, du jour au lendemain, va changer le paysage. Il faut bien voir que c'est une démarche de long terme et qui doit s'enchaîner. Si je prends, par exemple, une collectivité qui décide de le vélo est très en vogue actuellement, de faire avec les vélos électriques, de promouvoir le vélo électrique pour le domicile travail. Si vous décidez ça comme cela, entre entreprises et collectivités, régions et interco, sans poser la question au département de sa politique d'aménagement des routes et de bandes, enfin de parties de la chaussée sécurisée pour le vélo, ça ne va pas fonctionner. Ça ne va pas fonctionner. Donc, cet exemple. Et d'autre part, si sur un parcours qui ne connaît pas forcément les limites géographiques intercommunales, eh bien, il y a deux intercos qui sont concernés, eh bien, il faut aussi qu'on travaille dans cette continuité. Et ce travail-là va être nécessaire. Il va falloir mettre un ordre logique aux choses. C'est-à-dire, il faut que la chaussée soit adaptée aux politiques que l'on veut mener, par exemple sur le vélo, et non pas mettre le vélo de façon non sécurisée sur des chaussées. Donc, vous voyez, la gestion du temps, l'ordre des choses, c'est un travail d'architecte. On fait des fondations avant de mettre le toit et la cheminée et la girouette au-dessus. Voilà. Donc, c'est ce travail-là qui va être à faire. Et là, je pense que le CNFPT, avec ce qu'il porte de formation, a un rôle essentiel. Et je salue votre initiative et le partenariat que l'on pourra avoir pour effectivement apporter du savoir-faire, étant entendu qu'on a d'autres structures et de la formation pour faire passer ces idées-là, mais en lien avec le territoire, avec la façon dont la région conçoit ça. Parce que d'une région à l'autre, les problématiques sont différentes, donc les réponses doivent être différentes.
Donc on est vraiment dans l'esprit de la loi qui cherche à garder de la souplesse pour s'adapter au mieux aux spécificités des territoires, y compris dans la gouvernance. J'ai une question sur le cas où, vous l'évoquiez tout à l'heure, une communauté de communes ne prendrait pas la compétence, et donc ce serait la région qui assurerait le rôle d'AOM régional. Dans une telle situation, comment on peut réussir à prendre en compte les contextes et les problématiques locales?
C'est-à-dire quand la région prend la compétence?
Oui, et qu'on lui demande de mettre en œuvre les différents leviers d'action.
Eh bien, dans le cas où une intercommunalité décide de ne pas prendre la compétence, je rappelle que là, il y a eu un report de 3 mois jusqu'au 31 mars pour la prendre au niveau des intercos. Et la date limite d'application reste le 1er juillet 2021. Dans ce cas-là, c'est la région qui va le faire. Mais pour moi, c'est la conception des choses que nous avons en Bourgogne-Franche-Comté, quels que soient ceux qui prennent la compétence, et notamment si c'est la région, tout ce que je vous ai expliqué d'organisation doit demeurer. C'est-à-dire, même si c'est la région ne peut pas faire, indépendamment d'un dialogue, avec les intercommunités, avec les entreprises, avec les acteurs du territoire. C'est ça la richesse de cette loi, c'est que c'est une loi permissive. Elle permet des choses, elle fixe des règles, mais elle n'interdit rien, notamment l'innovation locale dans la gestion des dossiers de mobilité et l'expérimentation qui est au cœur même de ça. Ça me fait penser au début des missions locales. Mission locale, c'était un peu ça, cette réflexion. Mission locale, c'était partir des besoins et trouver des solutions adaptées. Et être à chaque fois dans l'innovation parce que les problématiques évoluaient dans le temps et il fallait répondre sur les jeunes de façon adaptée. La LOM, c'est à peu près la même logique. L'innovation, et notamment l'innovation au niveau de la gouvernance, de l'ingénierie, elle doit avoir une place très forte. Et cette innovation ne peut se faire que à partir du moment où on permet les choses et où on n'interdit pas, d'où l'idée de cette loi permissive. Et un autre aspect où là l'État est prêt à jouer un rôle, c'est-à-dire que France Mobilité avec le CEREMA, l'État est prêt d'une part à faire connaître l'ensemble de ce qui se fait à travers les régions de France, pour ne pas partir sans matière, et prendre les bonnes initiatives, les adapter aux autres. Et puis, le CEREMA, à travers ses compétences, peut venir aussi en appui pour gérer tout cela. Donc, on voit bien là que c'est une loi qui doit totalement modifier les comportements et bien permettre à chaque échelon d'avoir ses responsabilités. Je parle du département notamment. Le département a toujours eu l'impression que les lois de décentralisation les dépeçaient. La LOM les remet au cœur de leurs problématiques sur deux sujets, sur les infrastructures, et notamment quand on parle de mobilité, eh bien les départements sont compétents pour les aires de covoiturage. Les aires de covoiturage, donc ça c'est une nécessité qu'il faut porter, on les intègre, et puis ils sont compétents. Et c'est un autre sujet quand on parlait de la mobilité partout et pour tous sur le côté inclusif. Les départements sont au niveau du social, ils sont responsables de ça, de la solidarité. Et donc là, ils ont aussi un rôle à jouer à leur place, dans leurs compétences, dans le dispositif. Et d'ailleurs, il y a une partie sur le côté inclusif qui est très fort. Et là, je crois que on retrouve les fondamentaux de la répartition des compétences de la loi Nôtre et qui va donner à chacun la capacité de porter sa pierre pour qu'on l'on puisse mieux se déplacer. L'autre élément, parce qu'une fois que j'ai dit ça, il y a un élément qui monte de façon forte, c'est les systèmes d'information multimodaux. C'est-à-dire que on s'aperçoit, c'est les conclusions des assises de la mobilité, il y a beaucoup d'initiatives sur le territoire. Elles sont limitées dans leur effet par le côté un peu trop local des choses et la mobilité sur un espace plus large. Et elles sont aussi limitées dans leur développement par le porté à connaissance. En France, on croit toujours que de prendre une décision, de mettre en place des dispositifs, se suffit à soi-même et que automatiquement, tout le monde va avoir connaissance de cela et ça va fonctionner. Ça ne marche pas comme ça, notamment en mobilité. Le porter à connaissance du plus grand nombre de ce qui existe en matière de mobilité est quelque chose d'essentiel. Et la loi prévoit que chaque région doit s'assurer qu'il y a un système d'information multimodal qui porte à la connaissance de tous l'ensemble des solutions de mobilité existant sur une région. Et pour être inclusif, à la fois par les outils modernes que l'on a d'échange grâce à Internet, grâce au téléphone, mais aussi par une médiation qui doit être faite avec un numéro de téléphone unique permettant à ceux qui sont exclus de ces nouvelles technologies, soit parce que pour des raisons diverses et variées, ils ne peuvent pas, ou alors parce qu'ils ne veulent pas, on a les deux cas, eh bien, ils puissent quand même avoir accès à ces données. Et là, ce sont les régions qui doivent le porter et qui doivent intégrer tout cela. Donc, par rapport à cela, j'en reviens à votre question précise, savoir qui va être compté, tant qui va payer quoi, je dirais que c'est accessoire. Ce qui est important, c'est l'ensemble du dispositif, c'est la cohérence et qu'il n'y ait pas de peau de léopard. Et pourquoi, in fine, si on ne fait pas, c'est la région qui fait, c'est pour qu'effectivement, cette cohérence d'ensemble soit tenue. Mais même là où les intercommunalités ne veulent pas prendre la compétence, elles ont toute leur place dans l'élaboration des dispositifs.
D'accord. Alors, pour ma dernière question, peut-être qu'on va s'écarter un tout petit peu de la LOM, mais la crise qu'on traverse montre bien l'ampleur des enjeux de mobilité. Alors, très concrètement, quelle feuille de route les régions vont-elles suivre pour les mois à venir ?
Alors, les régions sont très inquiètes parce que dans les bars, dans les restaurants, ça revient. Dans les trains, dans les trams, dans les cars, ça ne revient pas beaucoup, même si l'offre est quasiment à la normale dès maintenant. Donc là, il y a un enjeu très fort sur le transport, conventionné, pour que les voyageurs reviennent dans ces moyens de transport massifiés. Ça, c'est déjà la première préoccupation des régions. La deuxième préoccupation, c'est de savoir si les régions auront les moyens financiers de porter toutes les actions qui doivent être mises en place, et notamment, il y a une perte d'environ 650 millions hors Île-de-France, hein, où là on est plutôt à 1,2 milliard, hein, de recettes sur la période 2020, et qui peut avoir des conséquences si ça ne repart pas vite en 2021. Donc là, c'est la deuxième inquiétude, et c'est l'alerte que l'on fait au niveau du gouvernement, qui est en train de réfléchir comment nous remettre à flot sur ce sujet-là. Et le troisième élément, c'est qu'effectivement, comme vous l'avez dit, on a vécu le Covid où les gens ne bougeaient plus. On a vécu avant la crise des gilets jaunes, où les gens éloignés de toutes les infrastructures existantes se sont plaints fortement, hein, d'une France à deux vitesses. Et on a à répondre à tous ces enjeux qui sont éminemment politique et qui vise aussi à faire l'unité nationale. Et ça, c'est tout le chantier qui est devant les régions et auxquelles elles vont devoir s'atteler très, très rapidement. Et je pense que c'est un chantier passionnant, c'est un chantier risqué, mais c'est un chantier où l'innovation doit permettre de faire des choses qui étaient peut-être inimaginables il y a 2 ou 3 ans. Et je crois que l'application de cette loi arrive fort à propos pour ceux qui sauront l'employer. Mais vous savez, si je crois pas trop au ruissellement du national sur le reste des territoires, je crois que là, il y a quand même en matière d'innovation une fertilisation croisée qui peut arriver et qui peut faire que on peut faire des réponses très opérationnelles dans des temps très courts à des coûts qui ne sont pas astronomiques et que l'on pourra supporter pour qu'effectivement on puisse avancer. Je prends un exemple précis de compétences qui nous ont été transférées, la compétence des cars interrégionaux. Comment on fonctionne actuellement? On regarde, on a un car qui fonctionne, et puis on regarde les fréquentations. Est-ce qu'on est en augmentation ou en diminution? On essaie de jouer sur les tarifs, voilà, et puis parfois ça ne décolle pas du tout. Et qu'est-ce que l'on fait à ce moment-là? On réduit l'offre. La LOM va amener à se poser la question différemment. Quel est le besoin? Est-ce que c'est le car qui est la bonne réponse au besoin? Et c'est le car tel qu'on l'a conçu qui répond réellement au besoin? Et en vous posant la question de cette façon-là, vous pouvez trouver des solutions plus efficaces, qui ne sont pas coûteuses, moins coûteuses que le car, et satisfaisant beaucoup plus de monde. Voilà. Donc, je crois que ça peut amener la méthode de réflexion, je veux dire, en mettant la réponse aux besoins de mobilité et faire converger les moyens vers ces besoins, plutôt que d'additionner des solutions de mobilité en se disant finalement par tout successif on devrait tout couvrir. Je pense que c'est là qu'est la grande révolution de la LOM pour inverser les problématiques et partir des besoins pour concevoir les solutions de mobilité.
Merci beaucoup, Michel Meugniot. Je rappelle que vous êtes président de la commission transport et mobilité de Région de France et premier vice-président de la région Bourgogne-Franche-Comté.
Et accessoirement président du CRO du CNFPT de Bourgogne. Voilà.
Merci pour cette précision. Et quant à vous, chers auditeurs, je vous dis à bientôt pour une prochaine émission.
Mise au point. Le magazine des politiques publiques.